c'est vous qui le dites.
La Fédération des associations étudiantes, la FEDEB, a publié le vendredi 28 août 2026 la 24e édition de son indicateur du coût de la rentrée. La FEDEB est la première organisation étudiante de la région de Bretagne implantée à Brest et à Quimper. Elle fait partie du réseau de la FAJ. Chaque année, cette étude permet de comparer l'évolution du coût de la vie étudiante et d'identifier les problèmes majeurs auxquels les étudiants sont confrontés. L'étude de cette année révèle que 2 923 € représentent en moyenne la somme qu'un étudiant en Bretagne occidentale devra dépenser pour la rentrée 2026. Un coût assez important pour des étudiants qui, pour la plupart, sont en situation de précarité grandissante. Pour nous éclairer sur la situation, nous recevons Ewen Min. Vous êtes vice-président chargé des affaires sociales à la FEDEB à Brest. Bonjour.
Bonjour.
À quoi sert l'indicateur du coût de la rentrée ?
L'indicateur du coût de la rentrée permet, comme vous l'avez indiqué, de pouvoir montrer une évolution d'une année à l'autre du coût de la rentrée chez les étudiants et notamment de l'évolution de la précarité étudiante. Donc nous, ça nous permet de mettre en lumière les différentes difficultés que peuvent rencontrer les étudiants, que ce soit au moment de la rentrée par rapport à cet indicateur, mais aussi tout au long de l'année.
D'où provient la méthodologie de calcul que vous appliquez à votre indicateur ?
Alors la méthodologie s'appuie du coup sur une méthodologie nationale qui est portée par la FAJ, donc la Fédération des associations générales étudiantes, et elle prend en compte du coup le coût de la rentrée pour un ou une étudiante ou étudiant primo-arrivant, donc c'est-à-dire qui vient d'arriver à l'université de 19 ans, donc en licence 1 ou équivalent, et sans double inscription, qui n'est pas boursier et qui est décohabitant, c'est-à-dire qui n'habite plus chez ses parents.
Quels sont les principaux critères qui sont pris en compte pour calculer cet indicateur du coût de la rentrée ?
Alors dans les compartiments qu'on a, on a tout ce qui est lié au loyer, aux charges locatives. On a aussi tout ce qui est lié à l'alimentation, le matériel pédagogique, le dépôt de garantie, mais aussi les frais d'inscription, la CVEC. Notamment, et puis tout ce qui est équipements divers, téléphonie internet et les loisirs.
L'étude commence par les étudiants extra-communautaires. Pourquoi commencer par ce profil d'étudiants ? Est-ce parce qu'on leur impose des réformes plus strictes, des réformes que je rappelle qui sont imposées par le ministre de l'Enseignement supérieur, comme des frais supplémentaires pour pouvoir s'inscrire, le prix du timbre fiscal qui a augmenté, qui est nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour, ou par exemple aussi l'aide à l'APL qui est restreinte. Pourquoi commencer par ce profil d'étudiants alors ?
Vous l'avez très bien dit, on se rend compte que cette année, les étudiants extracommunautaires ont fait face à de multiples réformes ou en tout cas décrets qui ont pu être imposés par divers organismes, que ce soit du coup le gouvernement ou autre. Et du coup, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de mesures qui ont été prises cette année. Vous l'avez très bien dit, la suppression des appels dans un premier temps, le doublement du timbre fiscal. Il y a également le seuil de justification de moyens financiers qui a été augmenté d'environ 200 euros cette année et évidemment les frais d'inscription qui ont été multipliés par 16 suite au décret Choose Friends for Higher Education. Donc il était important pour nous de mettre en lumière la problématique que rencontraient, en tout cas les problématiques que rencontraient les étudiants extracommunautaires cette année. Et surtout, ce sont des étudiants qui sont plutôt précaires. Nous, dans notre épicerie sociale et solidaire que nous mettons en place tout au long de l'année, l'Agorae, on se rend compte que 90% de nos bénéficiaires sont des étudiants extracommunautaires. Donc, ça montre aussi une précarité très importante de la part de ces étudiants-là. Et voilà, on voulait mettre en lumière cette année les différentes problématiques qu'ils pouvaient subir et notamment liées aux réformes qui ont été instaurées cette année.
Pensez-vous que ces différentes problématiques peuvent amener les étudiants à revoir leur projet d'avenir ?
Ah oui, tout à fait. Là, on se rend compte que l'augmentation du coût de la rentrée pour les étudiants extracommunautaires, alors vous l'avez très bien dit, pour les étudiants que nous avons choisis, on est à 2 923 € en Bretagne occidentale en moyenne, mais pour les étudiants extracommunautaires, ce chiffre augmente à 7 013 €. Donc ça va être une rentrée qui va coûter beaucoup plus cher aux étudiants extracommunautaires et notamment, le décret a été publié en mai dernier, ce qui fait qu'il y a déjà des étudiants qui avaient pu choisir leur orientation sur Parcoursup ou Mon Master et qui sont vus imposer ces frais différenciés et qui donc peuvent ne pas, enfin qui pour certains ont décidé de renoncer à la poursuite de leurs études parce que ces frais étaient largement supérieurs à ce qui était prévu et qui ne rentrent absolument pas dans dans leur budget pour leurs études.
Mis à part les étudiants extra-communautaires, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres types de profils étudiants? Je pense notamment aux étudiants boursiers, aux étudiants d'outre-mer ou encore aux étudiants monstrueux. Bah, qu'est-ce qui les différencie, les trois profils? Qu'est-ce qui les différencie, ces trois profils?
Alors oui, on a pu mettre en lumière différents types de profils étudiants. Donc, vous l'avez très bien dit, les étudiants boursiers et boursières. Alors là, c'était important de montrer aussi ce que pouvait coûter une rentrée étudiante pour ces étudiants-là. Même si ces étudiants bénéficient d'une bourse, on se rend compte que le coût de la rentrée est plutôt équivalent. Donc voilà, nous, on demande aussi une réforme des bourses pour les étudiants, qui est largement insuffisante et qui est plutôt inégale sur l'accession à ces bourses. Autrement, on a aussi les étudiants et étudiantes menstruées. Donc, c'est aussi pour mettre en lumière le coût que peut engendrer l'achat de protections périodiques, notamment, et aussi d'antidouleurs. Donc, ça montre aussi une inégalité par rapport au coût de la rentrée générale. Et aussi, on a aussi le profil d'étudiants d'outre-mer. Donc, c'est aussi principalement montrer que ces étudiants-là doivent aussi débourser beaucoup d'argent, notamment dans le transport, que ce soit dans le billet d'avion pour se rendre sur la France hexagonale, mais aussi pour se rendre sur la ville de résidence.
L'étude indique que 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim. Quels sont les facteurs ou les raisons qui expliqueraient cela? Est-ce parce que l'alimentation représente 177,27 euros dans le budget des étudiants?
Alors, l'accès à l'alimentation est un sujet central dans la précarité étudiante. On se rend compte que voilà, le logement prend une part très importante dans le budget des étudiants. Ça représente quand même le premier poste de dépense, et c'est un poste de dépense qui est incompressible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le réduire, on ne peut pas rogner sur ce poste de dépense. À contrario, les étudiants vont rogner sur l'alimentation, sur l'accès à la santé, qui font office de véritables variables d'ajustement budgétaire pour ces étudiants et étudiantes. Vous l'avez très bien dit, il y a une très grande partie des étudiants qui ne peuvent pas manger à leur faim et l'alimentation coûte cher. Alors, il y a eu le repas à 1 euro qui a pu être mis en place à partir de mai dernier, mais cette mesure ne permet pas de lutter contre la précarité de façon efficace tout au long de l'année, surtout qu'on n'est pas sûr qu'elle puisse être pérennisée dans le long terme. Et puis ça crée d'autres problématiques après aussi sur l'accès à la restauration universitaire, parce qu'il y a une grande influence d'étudiants qui se présentent aux restaurations universitaires sans pour autant que ça puisse être compensé budgétairement et non plus sur un moyen logistique, notamment sur les ressources humaines que dispose le CROUS et sur la logistique qu'il dispose.
Je reviens juste à ce que vous venez juste de dire précédemment sur le repas à 1 euro, puisque vous venez de dire aussi que le repas à 1 euro est bénéfique, certes, mais il y a aussi mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a aussi cette mesure va engendrer une diminution du personnel du CROUS. Il y a aussi un manque d'effectifs. Bah, quelles sont les mesures que la FEDEB souhaiterait mettre en place pour remédier à cela?
Alors tout d'abord, le CROUS est en flux tendu déjà avant même que le repas à 1 euro soit généralisé pour tous les étudiants. On se rend compte que les CROUS ne sont pas financés à leur juste valeur, c'est-à-dire qu'ils sont sous-financés depuis plusieurs années par l'État et par le budget de l'État. Donc le CROUS est essentiel pour la vie étudiante et pour les étudiants, que ce soit sur le logement ou même l'alimentation, et derrière les budgets ne suivent pas. Donc forcément, il y a une baisse de la qualité des services proposés au CROUS. Et du coup, nous, la FEDEB, déjà dans un premier temps, on demande la pérennisation du repas à 1 euro dans tous les CROUS pour que chaque étudiant puisse bénéficier de ce dispositif, mais également la possibilité de pouvoir se nourrir le soir au restaurant universitaire. Pour le moment, à Brest, il n'y a qu'un seul restaurant universitaire qui est ouvert en soirée. Et après, oui, pour tout ce qui est personnel du CROUS, on demande un budget qui soit à la hauteur de ce que le CROUS nécessite, aussi bien d'un point de vue mesure, donc d'un point de vue logement et alimentation, mais aussi d'un point de vue ressources humaines pour les personnels du CROUS.
L'étude indique également que les frais spécifiques, c'est-à-dire les frais d'inscription, la cotisation à la contribution de la vie du et du campus, c'est-à-dire la CVC, s'élève cette année à 1498 euros, soit une augmentation de 5,15% par rapport à la rentrée 2025. Est-ce que cette augmentation est liée au fait que le dépôt de garantie ou la complémentaire santé a continué à augmenter au fil des années?
Oui, tout à fait. Alors, les frais spécifiques de rentrée, ça représente les frais d'inscription, mais aussi le premier loyer à payer, le dépôt de garantie, le matériel pédagogique, etc. Donc, il n'y a pas forcément un poste de dépense qui sort du lot par rapport aux autres. C'est vraiment une augmentation générale de ces postes de dépense, notamment le dépôt de garantie est calqué sur le loyer qu'un étudiant ou une étudiante doivent payer mensuellement. Et du coup, oui, on voit qu'il y a une augmentation des loyers et du coup, forcément, des dépôts de garantie. Et puis, cette année, les frais d'inscription et la CEC ont stagné par rapport à l'année dernière, mais ça reste des sommes qui sont assez considérables, notamment la CEC à 105 euros. C'est une somme assez considérable pour les étudiants et étudiantes qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Donc voilà.
Selon l'étude, le loyer représente, comme vous l'avez dit, la part de dépenses la plus importante dans le budget d'un étudiant. C'est pourquoi la plupart des étudiants cherchent des logements CROUS. Pourtant, ces logements ne sont pas suffisants pour tous. Selon vous, que devrait faire le CROUS pour résoudre à ce problème de place?
Alors, le CROUS devrait pouvoir permettre d'avoir des résidences, plus de logements étudiants, donc de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des résidences CROUS, soit qui se construisent, soit réquisitionner, par exemple, des logements vides pour pouvoir y mettre des logements CROUS. Mais comme je vous l'ai dit, la problématique étant que le CROUS et le CNUS au national ne sont pas financés à leur juste valeur et à la valeur des services qu'ils rendent aux étudiants. Donc nous, on demande forcément à ce qu'il y ait plus de logements CROUS, comme l'avait pu présenter le président de la République quand il s'était présenté lors des dernières élections, qui n'ont pas vu le jour. Donc, on souhaiterait au moins que cette mesure puisse être mise en place. Et forcément, derrière, si le CROUS n'a pas les moyens financiers pour assurer la possibilité d'avoir plus de logements, il faut aussi que derrière, l'État puisse financer à la hauteur de ses ambitions. Il y a un article récemment qui est sorti par rapport au CROUS qui avait pour objectif d'augmenter le parc locatif social du CROUS en Bretagne. Donc, forcément, nous, on est dans cette... On est pour cette dynamique-là.
En ce qui concerne la bourse qui est attribuée en fonction des revenus fiscaux des parents, comment pourrait-on aider les étudiants pendant l'été, puisque la bourse n'est versée que pendant 10 mois, que pour 10 mois?
Pour les bourses, du coup, forcément, nous, on a des élus étudiants au conseil d'administration du CROUS et dans notre profession de foi, il était marqué qu'on souhaitait que les bourses puissent être mises à disposition l'été, donc que les étudiants puissent bénéficier des bourses sur 12 mois et non 10, parce qu'il est important de rappeler que les étudiants gardent leur logement pendant l'été, on ne change pas de logement tous les ans et on garde notre logement pendant l'été. Donc, il est important pour nous de pouvoir continuer à payer nos loyers et du coup pouvoir bénéficier de bourses et continuer à s'alimenter. D'autant plus que pendant l'été, les repas, les restaurations CROUS sont fermées. Donc, ça augmente forcément le budget derrière alimentation. Et du coup, si les étudiants ne peuvent pas bénéficier de ces bourses, il est très compliqué pour eux de pouvoir continuer à financer leurs dépenses liées au loyer et à leur alimentation, ce qui contraint forcément tous les étudiants, en tout cas une très grande majorité des étudiants, à devoir se salarier pendant l'été.
Et enfin, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réduire le coût de la vie étudiante dans les années à venir?
Alors, pour réduire le coût de la rentrée étudiante, tout simplement, il suffit... nous, on demande une réforme des bourses du CROUS. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, elles sont calquées sur le revenu fiscal des parents. Donc, on demande déjà à ce que les étudiants ne soient plus liés au revenu fiscal de leurs parents, qui est une défamilialisation des bourses, mais aussi une linéarisation de celles-ci, parce que pour le moment, les bourses sont construites par échelons. Donc, il y a 7 échelons qui sont présentés pour les étudiants et suivant le revenu fiscal des parents, mais aussi suivant certains critères, notamment la distance entre le logement et l'université, par exemple, sont des critères qui permettent après de calculer pour rentrer dans des échelons. Et du coup, voilà. pour quelques euros gagnés par nos parents sur leur revenu fiscal, derrière, ça peut être jusqu'à 90 euros qui sont enlevés par un échelon qui se perd. Et du coup, ça peut aller jusqu'à 90 euros de perte pour les étudiants et même parfois sortir du système de bourse. Donc, pour nous, il est très important que les bourses soient réformées en urgence.
L'étude de la FEDEB sur le coût de la rentrée 2026 indique que divers facteurs sont à l'origine de cette augmentation du coût de la vie étudiante, le loyer, l'alimentation ou encore les frais de scolarité. C'est une situation de plus en plus difficile pour les étudiants face à une précarité qui ne cesse de s'accentuer. Pour trouver des solutions adaptées, il devient indispensable de prendre en compte la réalité de chaque profil étudiant. Merci Ewen Min d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le vice-président chargé des affaires sociales à la FEDEB.
L'émission d'info locale.